qui tiendra la conférence, et je suis très heureux de l'accueillir parmi nous, dans nos milieux. Il est bien connu pour tous les travaux qu'il a faits, et multiples travaux, à travers l'association Action Familiale et Scolaire, que ce soit ses études sur la messe, tout à fait remarquable, sur la liberté religieuse, la franc-maçonnerie, le charismatisme, et encore bien d'autres études. Et je dois dire que M. Lassus nous donne un exemple par son dévouement pour la formation doctrinale. Il est, je dirais, tout le temps en voyage, souvent, pour faire des sessions doctrinales. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous, car ça reste la base de notre combat. On ne peut rien faire, on ne peut rien construire sans d'abord poser des fondements doctrinaux.
Je suis heureux de participer à ce congrès de Cicinuno. Je suis heureux de manifester ainsi, pour ma part, ce qu'on a pu appeler un front commun. Front commun constitué par des fidèles et par des groupes catholiques qui peuvent être en désaccord sur des points importants, mais qui sont en parfait accord sur les grands axes du combat doctrinal et qu'il faut mener contre le néo-modernisme conciliaire et post-conciliaire. Le sujet qui m'a été demandé par M. l'abbé Duchaleur est un des aspects du néo-modernisme en France, c'est l'affaire de la catéchèse. Affaire très importante. Deux petits livres servaient jusqu'ici à la formation de base du jeune français. Le catéchisme et les fables de La Fontaine. Le catéchisme pour la connaissance de l'ordre naturel et surnaturel, les fables de La Fontaine pour la connaissance du monde tel qu'il est. Une partie du génie français s'explique par l'importance accordée à ces deux bases. Que constatons-nous aujourd'hui? Les fables de La Fontaine sont abandonnées et remplacées à l'école par des textes les plus insipides ou les plus douteux. Quant au catéchisme et à ses compléments, histoire sainte, formation de la piété, etc., il se voit remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle catéchèse. Dans quel état se présente aujourd'hui la catéchèse en France? Sous l'influence de ce qu'on a appelé le mouvement catéchétique, la catéchèse des années 40 a été soumise depuis 60 ans à un processus de mutation permanente. D'où cette nouvelle catéchèse qui prévaut actuellement, et on ne peut la décrire correctement que si l'on tient compte des éléments historiques qui l'ont engendré. D'où le plan de mon exposé, première partie, bêtement j'ai perdu le... Non, j'ai perdu le transparent du plan. Première partie, l'historique sur 60 ans. Deuxième partie, la mutation de la catéchèse avec ses caractéristiques modernistes. Et troisième, quatrième et cinquième partie, les documents de base de la nouvelle catéchèse, sa pédagogie et sa doctrine, sa morale, son exégèse. Un mot au préalable, quelles sont les sources utilisées? Essentiellement des documents d'ordre général, l'un des plus importants étant un document relativement récent qui s'appelle Tabor, encyclopédie des catéchistes, qui est vraiment une très belle explication de ce qu'est aujourd'hui la nouvelle catéchèse. Et puis parcours catéchétique, spécialement le parcours Ovide. Une précision de vocabulaire au départ, quelquefois on se prend les pieds dans les ficelles avec les mots catéchisme et catéchèse. Voilà comment ils sont utilisés en France actuellement. Le mot catéchisme désigne un livre, le fameux résumé doctrinal par questions et réponses, un acte, faire le catéchisme, une institution, le catéchisme de telle paroisse. Le mot catéchèse désigne aujourd'hui l'ensemble des activités destinées à former les enfants et éventuellement les adultes à la vie chrétienne. Et cette catéchèse devrait comprendre le catéchisme, bien entendu, l'histoire sainte, la formation à la piété, l'explication de la messe, la préparation au sacrement, première communion, confirmation. Donc dans ce vocabulaire tel que nous l'utilisons, le catéchisme n'est qu'une partie, la partie la plus condensée, la partie la plus abstraite de la catéchèse. Que dire de ce mouvement catéchétique qui a commencé à la fin du XIXe siècle, mais qui s'est surtout développé à partir des années 1940. Il y a à ce sujet un livre très intéressant qui a paru intitulé « Un siècle de catéchèse en France, 1893-1980 » de deux prêtres de diocèse de Strasbourg, Adler et Vogelheisen. Ce sont un livre vraiment très important sur le plan historique. Il montre que les premières influences sur le catéchisme viennent de la pédagogie profane à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, où il y eut une effervescence pédagogique très importante. Et ils évoquent le nom de Dewey, celui qui a mis à la casse la pédagogie américaine, le nom de Maria Montessori en Italie, le nom de Freinet en France. Maria Montessori est spécialement importante, voilà ce qu'ils disent. Maria Montessori a inspiré plusieurs promoteurs du mouvement catéchétique, spécialement Françoise Derken et Hélène Lubienska. C'est surtout à partir de 1940-45, de l'immédiate après-guerre, donc, que ce mouvement qui ne touchait qu'un petit nombre de gens au préalable, dans les années, disons, 1900-1940, a pris figure d'une manière beaucoup plus visible avec le fameux chanoine Quellon. D'où une première étape de cette évolution de la catéchèse correspondant à la période 1945-1964, étape qu'on appelle le catéchisme progressif. Quelle était sa tendance ? C'était de donner la primauté de l'expérience du sujet sur l'objet de la catéchèse. Voilà ce que disait le chanoine Quellon, texte au tableau. Vous pouvez redresser. La valeur pédagogique d'un programme et d'une parole ne réside pas d'abord dans sa richesse de vérité, mais dans le fait qu'ils sont adaptés à l'expérience religieuse de l'enfant, au moins à ses possibilités actuelles d'expérience, dans le fait que cette parole pourrait être, qu'elle serait la réponse aux questions que l'enfant poserait s'il avait la permission d'en poser. Primauté de l'expérience du sujet sur l'objet de la catéchèse. Et si l'expérience est nulle, la catéchèse, si on suit ce principe, risque d'être tout à fait nulle. Le chanoine Quellon, avec un sens de l'action incontestable, a développé son action en France. Son expérience a été arrêtée par des mesures romaines en 1957, mais ce sont des mesures qui n'ont pas eu d'effet, et les idées du chanoine Quellon ont été consacrées en 1964 par un document épiscopal français intitulé Directoire de pastoral catéchétique. Deuxième étape de ce mouvement catéchétique, la mutation des années 65 à 1979. Mutation caractérisée par des documents comme le fameux fonds obligatoire à l'usage des auteurs d'adaptation du catéchisme français du cours moyen, qui mettait en pratique le directoire de 64, autrement dit, qui mettait en pratique les idées du chanoine Quellon. Et derrière ce fonds obligatoire, 10 catéchismes, ou si vous préférez, 10 adaptations spécialisées par milieu social, et qui étaient conformes au fonds obligatoire qui était la charte ou la spécification générale. Tendance générale de cette époque, celle du catéchisme progressif, primauté de l'expérience du sujet sur l'objet de la catéchèse. La troisième étape, c'est celle où nous sommes aujourd'hui, qui va de 1979 à l'an 2000 et les suivantes. En 1979, l'épiscopat français sort un fameux texte de référence au service des auteurs de publications catéchétiques, qui remplace en 1979 le fonds obligatoire de 1964. Et en conformité avec ce texte de référence, sont édités en 1981 Pierre Vivante, intitulé « Recueil catholique des documents privilégiés de la foi », et en 1981 et années suivantes, des parcours catéchétiques qui sont établis conformément au texte de référence et qui se réfèrent constamment à Pierre Vivante. Ces parcours sont rendus obligatoires par des ordonnances épiscopales qui rendent obligatoires les parcours et Pierre Vivante et qui interdisent par le fait même les autres catéchismes. Autrement dit, c'est ce qu'on a pu appeler l'institution légale du modernisme dans la catéchèse française. Au service de cette évolution, remarquablement menée sur une période de 60 ans, 1940 l'an 2000, on trouve un appareil qui est très bien rodé. Un appareil constitué par les réseaux des directions diocésaines en matière de catéchèse, ce qu'ils appellent les lieux catéchétiques, c'est des communautés créées autour de la catéchèse, les animateurs relais et ce que le père Marlet appelle des séminaires, des instituts de formation pour former les maîtres et les pour former les maîtres et les catéchistes dans l'esprit de la nouvelle catéchèse. Cet appareil encadre les personnes, assure la formation des enfants, catéchiste pour le primaire, animateur pour le premier cycle du secondaire. Au total, ça fait des effectifs considérables, puisque les dernières statistiques que nous possédions résultent d'une enquête menée en 1984 par l'épiscopat français. En 1984, il y a 16 ans, il y avait 150 000 catéchistes et 70 000 animateurs, donc plus de 200 000 personnes. Aujourd'hui, il doit y en avoir un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Personnes qui font preuve d'un grand dévouement et qui, en général, sont conditionnées en ce sens qu'elles ne mettent pas en cause les orientations qui leur sont données. Quel est l'objectif ? Ça a été remarquablement défini par le père Marlet, jésuite, directeur de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique, parlant dans un article de 1980, de texte en bas du tableau, vous pouvez le monter un peu. Il s'agit, dit-il, de l'engendrement de ce type nouveau d'église que l'époque atteint. On croirait lire du Teilhard de Chardin. Voilà pour l'historique. Deuxième point, les caractéristiques de cette nouvelle catéchèse. Elles sont essentiellement modernistes. Je vais vous mettre en parallèle sur 5 ou 6 transparents. En haut, les caractéristiques classiques du modernisme, telles qu'elles ont été définies, entre autres, par Saint Pie X dans Pascendi. Et en bas, l'application moderniste, ou néo-moderniste si vous préférez, de la nouvelle catéchèse. D'abord, il y a le tour d'esprit moderniste caractérisé par la volonté de changement. J'ai mis en haut du tableau un texte de Louis Junier, disant « Le modernisme se caractérise par un mépris agressif du passé et de la tradition. Il se caractérise par l'adoration aveugle et irrationnelle du futur, par la croyance en un progrès fatal et continu. Et le tout se traduit par une volonté systématique de changement. » Ça, c'est le tour d'esprit moderniste, ce qu'il a de plus classique. Application, vous avez en bas de la page un texte du père Marlet, jésuite, qui a joué un rôle très important dans la réforme de la nouvelle catéchèse, avec d'autres jésuites comme le père de Vaucel. Voilà ce qu'il disait en 1980, texte en bas du tableau, vous pouvez le monter un peu. Et quelle pourra être la figure de la catéchèse dans ce nouveau contexte, point d'interrogation ? Il est évident que la catéchèse va être amenée à repenser non seulement ses méthodes, mais sa nature même et l'ensemble des réalités avec lesquelles elle entre en rapport. Sa nature même, donc il s'agit bien d'un changement de nature de la catéchèse. Autre aspect des caractéristiques modernistes de la nouvelle catéchèse, vous savez que le modernisme est caractérisé en philosophie par ce que Saint Pie X appelle l'agnosticisme et l'immanence vitale. Agnosticisme, aspect négatif, immanence vitale, aspect positif. Agnosticisme, c'est ce que nous appelons aujourd'hui nominalisme. Théorie qui nie, de facto, le rôle de l'intelligence pour connaître la vérité. Voilà ce qu'est le nominalisme ou l'agnosticisme des modernistes d'après Saint Pie X. Et voilà une proposition correspondante qui date de 1979, de deux religieuses qui ont joué un rôle très important, je crois, dans l'élaboration des nouveaux documents, qui s'appellent Odile Dubuisson et Elisabeth Germain. Que disait-elle, texte en bas du tableau ? C'est un texte qu'il faudra apprendre par cœur, parce que je crois que ce texte à lui seul définit le gigantesque changement. Je cite « Aux catégories philosophiques de l'être et de la substance se sont substituées pour penser le monde les catégories de l'échange, de la relation et de la communication. » Ben, nous pourrions nous arrêter là dans cet exposé. Voilà ce qui caractérise le tour d'esprit en philosophie des gens qui ont fait cette nouvelle catéchèse. Nominalisme d'un côté. On élimine l'être et la substance. On perd le sens de la vérité. Immanence vitale de l'autre. Immanence vitale, vous savez ce que c'est ? J'ai mis au tableau là, un texte du cardinal Mercier qui figure dans Iota Unum. C'est un texte que je trouve admirable par sa concision. Le cardinal Mercier disant ceci, parlant d'immanence moderniste, « Le fond du modernisme est ceci, que l'âme religieuse ne tire d'aucune autre source que d'elle-même l'objet et le motif de sa propre foi. » Autrement dit, c'est l'antithèse de l'acte de foi des catholiques. C'est d'ailleurs typiquement protestant. C'est le principe de l'illumination intérieure des protestants. Application à la nouvelle catéchèse. Le cardinal Mercier parlait du modernisme des années 1910. Mais c'est pareil aujourd'hui. Que disait le père de Vaucelles? Le père de Vaucelles est un des jésuites qui a joué de génie, certainement, qui a joué un rôle très important dans cette affaire-là. Il disait ceci: on ne peut que se réjouir du refus d'endoctrinement qui caractérise de façon générale les démarches d'initiation à la foi, autrement dit la nouvelle catéchèse. Pourquoi? Parce qu'en France, les animateurs se montrent respectueux de la liberté de conscience de leurs auditeurs et cherchent surtout, au niveau de l'adolescence, à introduire à la pluralité des références et des pratiques si caractéristiques de notre monde. Donc, un catéchisme basé sur le pluralisme. Et c'est pas n'importe qui dit ça, c'est le père de Vaucelles qui, avec le père Marlay et quelques autres jésuites, avec le génie propre aux jésuites, a défini les lignes de cette nouvelle catéchèse. Autre aspect de la nouvelle catéchèse, l'exégèse. Que dit Pachandi? Les livres saints sont considérés comme le recueil des expériences faites dans une religion donnée. Autrement dit, la révélation est considérée comme le fruit de la réflexion des croyants sur les événements humains. Application, voici un texte tiré du livre d'Adjad Voglaizen, rédigé en 1981. La révélation n'a guère rassemblée dans le dépôt de la foi, tel un objet, retrouve son caractère dynamique et historique, se présente comme un événement en train de se produire, la révélation, événement en train de se produire, dans l'action catéchétique. Elle redevient, à l'instar de ce qu'elle fut pour les ancêtres bibliques, la découverte lente, tâtonnante, de la signification chrétienne des événements humains sous la mouvance de l'esprit. Ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est qu'il y a, dans cette nouvelle catéchèse, et là je n'ai pas le temps de m'étendre, mais je vais quand même vous donner quelques textes, un nouveau système de pensée, une nouvelle façon de voir le monde, un autre univers intellectuel. Voilà ce que disent, j'ai mis au tableau quatre textes d'Adler et de Voglaizen, qui ont très bien analysé dans leur livre « Un siècle de catéchèse en France » cette évolution moderniste. On allait prendre conscience, disait-il, que la vérité n'est jamais que la vérité d'un groupe dominant. Il n'y a pas de vérité universelle. C'est une proposition qui est semi-maçonnique. Aujourd'hui en France, l'Église ne peut plus prétendre décemment à ce monopole du sens unique valable pour tous. Autrement dit, il y a plusieurs chemins pour aller au salut, le chemin catholique n'étant qu'un chemin parmi beaucoup d'autres. Nous ne croyons pas en un sens chrétien universellement valable. Il n'y a donc pas un sens chrétien à l'état pur, mais des sens successifs qui s'élaborent en fonction de problématiques elles-mêmes issues de conjonctures personnelles et socio-historiques. C'est du jargon, mais du jargon qui dit bien ce qu'il veut dire. Il faut bien voir que quand il parle de problématique, c'est au fond une philosophie nouvelle, c'est une manière de voir le monde. Reprenons pour caractériser ce nouveau système de pensée, cette nouvelle façon de voir le monde, reprenons le texte qu'on a mis tout à l'heure, aux catégories philosophiques de l'être et de la substance se sont substituées pour penser le monde celles de l'échange, de la relation et de la communication. Il s'agit bien là d'une nouvelle philosophie nominaliste. Mais ils n'appelleront pas ça une nouvelle philosophie, ils ont leur vocabulaire à eux, ils appelleront ça une nouvelle problématique, un nouveau diagnostic. Et dans un livre très important qui est apparu en 1974, qui a été édité par le Centre national de l'enseignement religieux, c'est de là que sont sortis ensuite les parcours des années 80, le livre intitulé « La foi mot à mot », ils disent ceci: c'est la notion même de principe qui est soumise à une réinterprétation. L'histoire culturelle et sociale intervient aussitôt dans l'appréciation des formes de la foi. On ne craint pas de reconnaître des processus de type idéologique jusque dans le christianisme. Là encore, c'est du jargon, mais on comprend très bien qu'ils mettent en cause, très directement, la notion même de principe. Tout est dit dans cette dernière formule. Ce ne sont pas même les principes immuables que l'on refuse ou que l'on conteste, c'est la possibilité même de l'existence de principes immuables. Compte tenu de ce qui précède, on comprend mieux la remarque du père Marlay, qui voyait dans la nouvelle catéchèse l'un des moyens permettant d'assurer ce qu'il appelait l'engendrement de ce type nouveau d'Église que l'époque atteint. Je disais que c'est un texte type de Teilhard de Chardin. Dans son très beau petit livre de Gilson, Les Tribulations de Sophie, Gilson cite un texte de Teilhard que voici. Teilhard lui demandant à lui Gilson, « Pouvez-vous me dire qui nous donnera ce métachristianisme que nous attendons tous ?» Nouveau type d'Église que l'époque attend, métachristianisme que nous entendons tous, c'est la même idée, on retrouve Teilhard sous la plume du père Marlot. Ainsi, avec la nouvelle catéchèse, nous avons affaire à un aspect d'une nouvelle église, d'une nouvelle religion, c'est ça qu'on enseigne aux enfants actuellement en France, du moins la majorité des cas. Ayant vu l'inspiration moderniste des auteurs de la nouvelle catéchèse, examinons maintenant les documents catéchétiques conçus, et là je vais m'axer exclusivement sur des documents récents, c'est-à-dire des documents postérieurs à 1995. Pour qu'on ne puisse pas vous dire, ça c'était vrai en 1980, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc tous les documents que je vais vous projeter sont postérieurs à 1995. Quelles sont les deux bases de la nouvelle catéchèse? Il y a Pierre Vivante et les parcours. Pierre Vivante, c'est un document élaboré par l'épiscopat. Il se présente comme un recueil catholique de documents privilégiés de la foi. C'est un peu un fourre-tout. Il contient les textes de l'Écriture, des notices du type catéchisme, des explications sur l'histoire du monde, des explications sur l'histoire de l'Église, des prières, des données sur la liturgie, le tout dans un désordre assez remarquable. Et comme usage, c'est la base à laquelle doivent se référer tous les parcours catéchétiques. Nous allons voir ce que c'est qu'un parcours maintenant. Et c'est les auteurs du Pierre Vivante vous disent que c'est Pierre Vivante qui constitue l'unité de l'ensemble du phénomène. Pierre Vivante n'est pas un catéchisme en tant que tel, c'est un complément aux différents parcours catéchétiques. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux. Le rôle de Pierre Vivante, livre commun à tous les enfants catéchisés en France, manifeste l'unité de la catéchèse. Nous en sommes à la troisième édition de Pierre Vivante qui date de 1994 et les deux premières éditions ont été tirées à 2,5 millions d'exemplaires. Autrement dit, c'est vraiment, au point de vue éditorial, c'est une affaire considérable. Un livre très bien présenté, de grand format, 175 pages avec des photos magnifiques et c'est certainement une performance d'édition. Voilà comment se présente la page de garde de la couverture du Pierre Vivante, le troisième, celui de 1994. À côté de Pierre Vivante, il y a les parcours catéchétiques, qui ont actuellement une bonne douzaine en service en France. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours? C'est un ensemble de documents catéchétiques proposant sur plusieurs années d'initiation chrétienne un cheminement cohérent et progressif de la catéchèse. C'est la définition officielle. Les parcours sont spécialisés par tranches d'âge. Il y a 5 tranches d'âge. Ils sont pas très souvent, mais ils sont parfois spécialisés par année liturgique. A, B et C. Pour chaque spécialisation, vous avez dans un parcours un guide pédagogique et doctrinal pour l'animateur, autrement dit pour le catéchiste. Et vous avez un livre et un dossier de fiches pour l'enfant. S'y ajoute souvent un livre ou un dossier de fiches pour les parents, plus des textes de la Bible, des commentaires d'Histoire sainte et d'Histoire de l'Église. Ce qui fait que quand vous prenez, par exemple, le parcours que j'ai étudié surtout pour mon étude, qui est le parcours Eau Vive, qui a été adopté par les 11 départements de l'ouest de la France, Angers, Rennes, Nantes, etc., le parcours Eau Vive correspond à 14 livres au total. Je les ai tous achetés, ça m'a coûté 1000 francs. Voici comment se présentent les parcours. Vous voyez, toujours ce mélange des genres. On voit notre Seigneur qui entre à Jérusalem et en dessous des gosses qui sont en train de s'amuser. Donc retenez ceci, c'est l'extrême complexité de ces parcours, du fait que si vous avez 14 livres pour un seul parcours, comme il y a 12 parcours, il n'y a pas loin d'une centaine de manuels de catéchisme en France à l'heure actuelle. Et toujours en général, au point de vue édition, de très bonne qualité, au point de vue graphique, les dessins peuvent être de bon ou de mauvais goût, ça c'est pas ça qui est en cause ici, mais au point de vue graphique, au point de vue réalisation typographique, c'est en général très remarquable. Donc voilà le contenu de la nouvelle catéchèse, voilà les livres de la nouvelle catéchèse, Pierre vivante pour tout le monde, et des parcours spécialisés par tranche d'âge et par année liturgique, chaque parcours dans chaque diocèse retenant un ou plusieurs parcours sur les 12 ou 15 qui existent actuellement. Quelle est la pédagogie de ces parcours ? J'ai mis dans le... Je n'ai pas le temps de vous le lire. Dans le texte de mon exposé, une remarquable critique qu'a fait M. Rousseau professeur, en 1985 de la deuxième version de Pierre vivante. Mais ces critiques, émanant d'un instituteur, de quelqu'un qui a le contact avec les enfants, sont tout à fait valables pour les parcours d'aujourd'hui et pour le Pierre vivante d'aujourd'hui. Je résume la pensée de M. Rousseau. Il vous dit « Pierre vivante est totalement antipédagogique pour trois raisons principales. Le mélange des genres, le mépris de l'ordre naturel des événements, le mépris de la chronologie et l'abus de l'iconographie. » Reprenons ces trois points. Le mélange des genres, c'est tout à fait typique dans un parcours. D'une page à l'autre, on passe des descriptions de la vie quotidienne des jeunes à des règles de savoir-vivre, à des vérités religieuses, à des textes de la Bible, à des évocations de la vie moderne, à des éléments d'histoire sainte, à des éléments d'histoire profane, à des éléments d'actualité. C'est un mélange, d'une page à l'autre, on change. Et non seulement le texte, le sujet traité change, mais l'iconographie change de style. Voilà ce que dit sur le mélange des genres le monsieur Rousseau. Vérité religieuse, histoire, texte biblique, prière, commentaires divers, tout est mêlé. Nous autres adultes, nous nous y retrouvons parce que nous avons une ossature de connaissances dans laquelle s'insère toute acquisition, ossature que les enfants n'ont pas. Mais à côté du mélange des genres, voici quelques exemples du mélange des genres. Oui, la page de couverture d'un des livres du parcours « Eau vive ». Vous avez un Christ à droite, des gosses en train de chanter, et des montgolfières. Bon, qu'est-ce que viennent faire des montgolfières sur une montagne dans un parcours catéchétique, si ce n'est distraire l'enfant du sujet étudié, c'est assez incompréhensible. Voici un autre exemple de couverture d'un livre de Feijaï à la vie, c'est un livre pour les 8-11 ans de l'année bleue. Il y a un livre différent pour l'année rouge et un livre différent pour l'année verte. Oui, la manne pour les éditeurs. Que voyez-vous là-dessus ? Des gosses en train de courir, une foire, un petit village rural dans le fond, un manège de foire, notre Seigneur en train de parler à ses disciples, tout ça mélangé. Quel rapport ? C'est ce mélange des genres qui est tout à fait typique. Autre exemple, dans un parcours, j'ai oublié ce parcours-là, j'ai oublié de noter, enfin peu importe, Dieu notre Créateur. Bon. Pour illustrer l'idée de création, on voit des gosses en train de s'amuser à peindre un mur, à préparer de la peinture, à peindre des dessins. On ne voit pas le rapport entre les images qui ne peuvent que distraire et le texte traité qui est la création par le bon Dieu. Autre aspect très néfaste de cette pédagogie, c'est l'abus des méthodes actives. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que les méthodes actives soient systématiquement mauvaises. Un exemple de bonnes méthodes actives, vous l'avez dans le scoutisme. Mais autant que. Et là, ce qu'on critique, ce n'est pas le fait d'avoir des méthodes actives, c'est le fait de tout mettre sous l'angle actif. Et du fait de cet abus des méthodes actives dans la catéchèse moderne, on multiplie les activités des enfants, dans lequel ce sont les enfants qui sont moteurs, donc ils ne sont pas récepteurs à ce moment-là. Des jeux, des gens, des chants, des gestes, des panneaux, des dessins, des célébrations qui imitent la messe. Et les célébrations, c'est tout à fait typique. Les parcours insistent beaucoup sur les célébrations. Or, on fait jouer la messe par les enfants avec les animateurs, avec les quatre parties de la messe telles qu'elles sont décrites, nous le verrons tout à l'heure. La nouvelle décomposition de la messe, mais c'est une messe qui n'est pas une messe, puisque c'est un jeu. Alors, ça fait partie de la méthode active de la nouvelle catéchèse. Voici par exemple comment, dans la présentation du livre « Vous êtes mes amis », d'un parcours qui n'est pas le parcours au vive, on dit ceci. La pédagogie est active. Les activités convergent vers les temps forts. Et quels sont ces temps forts qui tiennent une grande part dans la démarche? Alors, il vous parle de marche, le bâton de marche, la boussole de l'amitié. Il vous parle de paix, la valise de la paix, la charte de la paix. Univers, la réalisation d'une fresque. Le corps, une chorégraphie. Le travail, une soirée cabaret, la nappe des métiers, le mur des métiers. Et le texte se poursuit, ce n'est pas au tableau. Un choix d'activité. Tout ça, c'est la catéchèse. Et proposer activités qui veulent aider les jeunes à grandir dans leur vie de jeunes, rencontre avec un médecin, à réussir leur vie avec les autres, test de citoyenneté, à s'ouvrir au monde par un repas international, à découvrir la vie en église par un dialogue avec des confirmés. Il ne s'agit pas de tout faire, chaque groupe détermine le calendrier des rencontres. Résultat, de telles activités prennent beaucoup de temps pour des choses futiles au détriment de l'enseignement des connaissances religieuses. Cet enseignement lui-même tend à se modifier et à être donné sous forme active. C'est ce que laisse entendre le document de présentation du parcours de l'atelier précédemment cité. Alors, ces multiples activités, voilà par exemple sur le livre Cascade du parcours au vive. Vous voyez toute une série de fiches pour les 12-14 ans, on marche avec des fiches. Ben, ces fiches, qu'est-ce que vous voulez, invités au voyage d'un Spoutnik, échec ou réussite, poussière d'étoiles, justice en jeu, parole d'amis, quel bonheur, quel malheur, internet, quel rapport avec la catéchèse, c'est autre chose. Ça occupe les enfants, mais pendant ce temps-là, on n'enseigne pas la doctrine catholique. Dernier point, l'aspect que peut-on dire de ces parcours en ce qui concerne la doctrine. Doctrine morale exégèse de la nouvelle catéchèse. Au fond, on pourrait dire que c'est relativement secondaire, ce dernier point. Pourquoi? Parce que la pédagogie utilisée n'enseigne rien. Alors, si vous enseignez rien, si ce rien est mauvais ou s'il est bon, ça revient au même. Mélange des genres, mépris des chronologies, abus des images, abus des méthodes actives, avec Pierre Vivant et la plupart des parcours catéchétiques, nous avons affaire à une opération antipédagogique. J'ai oublié de parler de l'abus des images, mais effectivement, tous ces parcours sont saturés d'images de couleur. Or, nos enfants ont déjà souffrent d'un abus d'image qu'ils ont par la télévision qui voit beaucoup trop. Par les cassettes, par les vidéocassettes qui voient trop, également par les magazines qui reçoivent. Donc on contribue à augmenter les méfaits de l'abus des images en faisant une catéchèse surchargée d'images de couleurs de toutes sortes. Donc je pense que c'est cet aspect antipédagogique de la nouvelle méthode qui est la chose la plus importante. C'est l'aspect le plus désastreux de la nouvelle catéchèse. Un enseignement qui n'enseigne pas a-t-il sa raison d'être? C'est pour ça que ce que je vais dire maintenant, en étant un peu cynique, on pourrait dire que c'est moins important. Cela dit, ça vaut quand même de voir comment la question est traitée. Nous avions fait en 1983, c'est le cardinal Ratzinger qui l'avait demandé à l'AFS à l'époque, une étude sur la catéchèse française de l'époque. J'avais pris 9 parcours et je les avais analysés à travers une dizaine de critères. C'est un gros truc. Là, je vais me limiter simplement à la messe. La messe, l'église, les fins dernières, l'écriture sainte et l'œcuménisme. On pourrait en prendre bien d'autres, mais ça permet déjà d'avoir quelques idées. Et cette comparaison, je l'ai faite donc sur une vingtaine de livres, les 12 ou 14 livres du parcours au vive, plus 5 ou 6 livres pris dans d'autres parcours. Et dans chaque cas, il est intéressant de voir ce que dit sur tel point de doctrine ou de morale ce que dit Pierre Vivante et ce que disent les parcours. Prenons la messe. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir que dans des quantités de points, il y a un véritable schéma nouveau sur la messe qui est imposé, qui est toujours le même, et qui est celui qui est au tableau. Alors, il divise la messe en quatre parties. Rassemblement, chant d'entrée, accueil, demande de pardon, gloire à Dieu. Écoute de la parole, jusqu'à la prière universelle. Ensuite, la troisième partie qu'ils appellent merci ou action de grâce, dans laquelle figure le récit du repas de Jésus, c'est ce qu'ils appellent, c'est leur manière de désigner la consécration. Et puis enfin, l'envoi, bénédiction, aller dans la paix du Christ. Autrement dit, les six parties classiques de la division de la messe sont totalement modifiées. Et c'est sous la désignation d'action de grâce ou merci qui mettent l'offertoire, la consécration et la communion. Voilà comment ces quatre parties sont représentées. Le rassemblement, les gens entrent à l'église. Écoute la parole, une bonne dame fait l'instruction, enfin lit. L'action de grâce et à la sortie, la grande discussion, l'envoi. Il y a un véritable escamotage de la messe, puisque on a mis en évidence deux parties qui sont relativement secondaires, l'entrée et la sortie, et on a pratiquement escamoté sous le titre d'action de grâce l'essentiel du Saint-Sacrifice de la messe. Dans le cas de Pierre Vivante, l'escamotage est quand même beaucoup moins marqué. Je n'ai pas le temps de vous lire le texte de Pierre Vivante, mais dans la présentation de la messe dans Pierre Vivante, il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a visiblement un vocabulaire défectueux, il y a une erreur sur le rôle du prêtre, on présente le prêtre comme président de l'Eucharistie. Cela dit, la notion de consécration, de présence réelle, elles sont affirmées, la notion de sacrifice n'est pas absente dans Pierre Vivante. Mais vous avez une certaine dégradation dans les parcours. Voici par exemple un texte du parcours « Fais jaillir la vie ». Si tu as bien suivi ce récit, on tutoie le gosse, si tu as bien suivi ce récit de la scène et de la passion, tu vas comprendre pourquoi les chrétiens vont à la messe. Ils se souviennent de la parole de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Ils se réunissent chaque dimanche avec le prêtre pour le repas de Jésus. On dit « il célèbre la messe », les chrétiens célèbrent la messe, ce n'est pas le prêtre. Comme les disciples, ils affirment que Jésus est ressuscité et vivant, ils s'unissent à Jésus qui offre sa vie au Père, ils remercient Dieu et partagent le pain devenu corps du Christ. Puisque les chrétiens célèbrent la messe, qu'en est-il du sacerdoce? Puisqu'il s'agit du repas de Jésus, qu'en est-il du sacrifice? Ce sont deux notions qui sont visiblement escamotées. Vous pourrez donner beaucoup d'exemples de ce genre-là. Notion d'église. Voici ce que donne Pierre Vivante et voici ce que donne le parcours aux vives. Définition de Pierre Vivante, l'église, c'est l'ensemble des baptisés qui adorent le Père, qui croient en Jésus-Christ, en qui demeure l'Esprit Saint, etc., etc. Cette unique église de Christ demeure dans l'église catholique, gouvernée par le pape, successeur de Pierre, et par les évêques unis à lui. On retrouve là le fameux subsistit in du texte conciliaire. Et l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, autrement dit, les orthodoxes et les protestants, dans cette définition, font partie de l'Église. Parcours aux vives, alors c'est le décalque de Pierre Vivante, l'Église est le peuple des baptisés, le peuple de ceux qui croient la bonne nouvelle de l'Évangile et qui ont charge de l'annoncer à tous. Donc on voit à quel point l'erreur du subsistit in a proliféré au cours des années pour aboutir au texte de définition de l'Église du parcours aux vives. Sur les fins dernières, c'est pareil, il y a un véritable escamotage des fins dernières. Voilà ce qui est dit par exemple dans un des parcours. Enfer, ce mot écrit au singulier ne se trouve pas dans la Bible. Aujourd'hui, quand on parle de l'enfer, on pense à des images utilisées par Jésus comme celles de la gêne de feu. L'homme peut refuser de vivre avec Dieu, ne chercher son bonheur qu'en s'enfermant sur lui-même. Aussi, pour le chrétien, vivre en enfer signifie vivre loin de Dieu, vivre sans Dieu, vivre contre Dieu. Cela correspond à la mort de l'âme qu'il faut craindre plus que tout. Tout n'est pas faux dans ce texte, mais il y a l'absence d'affirmation doctrinale. Aujourd'hui, on pense. Aujourd'hui, quand on parle de l'enfer, on pense. Et ensuite, il y a une présentation de l'enfer, d'où sont absentes l'éternité et les peines physiques, qui sont moins graves que les peines morales, que la peine du don, mais qui frappent beaucoup plus l'imagination des humains que nous sommes. Escamotage des fins dernières, c'est tout à fait typique. L'œcuménisme, je vais m'arrêter là. Là, on pourrait citer d'innombrables passages des parcours qui sont faits dans l'esprit œcuménique comme on l'entend aujourd'hui. Voici une page intitulée « Juifs, chrétiens, musulmans dans l'histoire ». Alors, c'est un peu pourri. Tout le monde y est. Vous avez Jésus-Christ, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Augustin, Mohamed. Vous avez Athénagoras, Henri VIII, Luther, Calvin, Roger Schutz, Madeleine de Bale, etc. Passez le suivant. Le suivant vous indiquera davantage. C'est l'agrandissement de la partie centrale. J'ai quand même trouvé fort de café qu'ils aient eu le culot de mettre Henri VIII. Disons Luther, c'est scandaleux, mais enfin, il y a quelque chose d'un réformateur religieux chez Luther. Tandis qu'Henri VIII, il a fait une opération politique pour autre chose. Enfin voilà, vous avez Calvin, Luther, Henri VIII et Mohamed, mélangés à Saint-Augustin, à Thérèse d'Avila, à Paul VI et à Roger Schutz. Enfin, bon, voilà ce qu'on apprend aux gosses, juifs, chrétiens et musulmans dans l'histoire. Alors sur l'écriture sainte, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là encore, la Genèse est un poème. Voilà comment Pierre Vivant analyse la Genèse. Au commencement, c'est par ces mots que s'ouvre le livre de la Bible. Présenté sous forme d'un poème, le premier chapitre de la Genèse déroute nos mentalités contemporaines. C'est un poème. En contradiction directe avec les vérités qu'a rappelé Pie XII dans l'encyclique Humani Generis. Je conclue. Dans cette étude, j'ai essayé de traiter le sujet suivant, la catéchèse française d'aujourd'hui, examinée à travers ces textes. Cette étude aurait eu besoin d'être complétée par une enquête montrant comment les catéchistes, de facto, utilisent ces textes, effectivement, ou comment éventuellement ils parviennent à s'en passer en ayant recours discrètement à des livres de bonne doctrine ou de bonne pédagogie. Je connais comme ça un groupe de 80 catéchistes qui travaillent en région parisienne, qui s'occupent uniquement des garçons dans les classes terminales et préparation aux grandes écoles, et qui, tout en restant dans le cadre de la catéchèse officielle, se sont fait donner la liberté de faire ce qu'ils voulaient, et qui font quand même du très bon travail en prenant les enfants et les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire dans une culture de plus en plus radicale. Et ils ont pris le cas le plus difficile, c'est les enfants des classes terminales et des préparations des écoles catholiques. C'est beaucoup plus difficile que les cas, la même catégorie dans les écoles d'État. Parce que dans les écoles catholiques, ils sont tenus d'aller au catéchisme, donc la plupart d'entre eux ne sont pas du tout volontaires, alors que dans les écoles d'État, il n'y a que des volontaires au cours de catéchèse. Donc on peut quand même, malgré ce carcan épouvantable de la catéchèse officielle, on peut quand même faire du bon travail. Les Français sont des brouillards, il y a quelques initiatives, j'en connais une en tout cas, qui sont très intéressantes dans ce domaine-là. Mais évidemment, cette étude que j'ai faite, qui est une étude sur texte, aurait eu besoin d'un complément que je n'ai pas eu le temps de faire et pas forcément la compétence, d'un contact avec les gens qui font effectivement la catéchèse. Mais les textes sont quand même tout à fait révélateurs quand on sait que ces textes sont imposés à la très grande majorité des catéchismes. La nouvelle catéchèse est le fruit d'une opération de longue haleine, préparée dès la fin du siècle dernier, qui n'a pris vraiment forme qu'en 1945. Elle s'appuie sur une puissante institution constituée par les multiples services de catéchèse actifs à l'échelle paroissiale, diocésaine ou interdiocésaine. Elle a été rendue obligatoire par les ordonnances épiscopales de 1982 qui constituèrent ce que l'on a appelé à l'époque l'installation juridique du modernisme. Bénéficiant ainsi du double soutien de la loi et de l'institution, la nouvelle catéchèse représente l'un des succès les plus spectaculaires du modernisme. Succès auquel on peut appliquer cette remarque du cardinal Pie. Quand l'erreur, et c'est un texte très extraordinaire, mais très, très, très vrai, très politiquement vrai du cardinal Pie, quand l'erreur est une fois incarnée dans les formules légales et dans les pratiques administratives, l'erreur pénètre les esprits à des profondeurs d'où il devient comme impossible de l'extirper. Il faut méconnaître entièrement les conditions réelles de l'humanité pour ne pas voir à quel point le vice ou seulement la lacune des institutions influe sur toutes les cases de la société et pèse sur les esprits, même en apparence, les plus fermes et les plus indépendants. Là, je crois que c'est le cas, parce que là, vous avez la loi, l'installation juridique du modernisme, et l'institution, 150 000 catéchistes, 70 000 animateurs, qui marchent dans le sens du néo-modernisme. Ainsi apparaît justifiée, au moins pour la France, cette remarque du cardinal Journet, que le cardinal Journet malheureusement n'a fait que dans une correspondance privée, mais sa formule est quand même saisissante, elle date de 1974, si je ne me trompe pas, le cardinal disant « La liturgie et la catéchèse sont les deux mâchoires de la tenaille avec laquelle on arrache la foi. » Il faut donc combattre la nouvelle catéchèse dans son principe même qui est moderniste, ce qui est plus efficace que de la critiquer dans ses effets. Cela suppose un minimum de connaissances sur le modernisme et le néo-modernisme, c'est un domaine sur lequel les bons textes sont nombreux. Simultanément, il faut, et d'abord à l'échelle familiale, s'en retenir ou revenir à la vérité et à la simplicité du catéchisme traditionnel, celui qui enseigne les quatre connaissances nécessaires au salut. Dans la préface du catéchisme du Concile de Trente, vous avez en effet cette phrase qui est tout à fait, c'est un peu la charte du véritable catéchisme. C'est avec une profonde sagesse, disaient les pères de Trente, que nos pères ont ramené toute la doctrine et toute la science du salut à quatre points principaux, symbole des apôtres, sacrement, décalogue et oraison dominicale. Il faut d'abord le faire, ce retour à une véritable catéchèse, il faut véritable catéchisme, il faut d'abord le faire à l'échelle familiale, les parents étant les premiers responsables de l'éducation religieuse de leurs enfants. Et pour cette tâche, les bons livres ne manquent pas, les grâces d'État non plus. En ce qui nous concerne, nous, à l'action familiale et scolaire, tous les ans, au mois d'octobre, nous éditons un petit catalogue de catéchismes de bonne qualité. On trouve en France et on réédite constamment de très très bons livres. Ce n'est pas les moyens qui manquent dans ce domaine-là. Mais les parents ont besoin d'être aidés, d'abord par des laïcs bien formés, qui peuvent trouver là un apostolat de grande utilité, ensuite par des institutions. Et là, c'est un vœu que nous, laïcs, nous pourrions formuler. Est-il permis d'espérer qu'une institution existante ou à créer se consacre à la tâche du catéchisme, comme le firent à la fin du XVIe siècle le bienheureux César de Bus et César de Bus et sa congrégation des pères de la doctrine chrétienne. Et je termine en disant, bienheureux César de Bus, priez pour nous dans les difficultés où nous sommes.